11h devant la machine à café.
Salut les PNQ!
Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
C'est pas le jour pour dire salut les PNQ.
Écoute, là, on sort juste de la lecture du livre de notre invité.
Magnifique. Mur Méditerranée, Louis-Philippe d'Alembert.
Écrit dans une langue, mais sublime.
Et il a remporté le prix de la langue française pour ce livre.
Alors ça suffit, les PNQ, les abus de langage, à tout va. Là, on relève le niveau. On s'élève un peu, Guillaume. Alors, tu refais ton entrée.
Bon, je refais l'entrée.
11h01, devant la machine à café.
Salut les meufs.
Sérieusement?
Quoi, qu'est-ce qu'il y a là?
Mais c'est trop familier, là.
Et c'est sexiste.
Donc voilà, tu recommences.
Oh, bon, je recommence.
11h02, devant la machine à café.
Salut, chers consoeurs.
Voilà. Allez, hop, au travail.
Allez, on sort les doigts du cul, on y va.
Mais tu peux pas t'en empêcher, en fait,
mais
c'est
quoi,
ça.
Non, mais sérieux, t'as un tic de langage, voire t'as un toc.
Mais ça va, on est à la machine à café, c'est pas comme si on était à l'antenne.
Eh ben, aujourd'hui, pour l'antenne, note, t'arrêtes avec les culs. Synonyme, arrière-train, séant, postérieur. Tu crois que tu peux y arriver?
Oui, ça va.
Je crois pas, regarde, tu l'as tout perturbé. Et cul par-dessus tête.
Elle a dit cul. Elle a dit cul par-dessus tête, donc cul par-dessus tête, y a cul.
Bonjour la France Inter. Salut les jeunes. Vous êtes à l'écoute de Fréquence Startup, la jeune pousse de la bande FM, j'ai envie de dire. Voici la devise du jour: mieux vaut squeezer la deadline que jamais. Voici l'ordre protocolaire des sujets. Dans le concert des contestations tout autour de la planète, Haïti n'est pas en reste. Tout le pays est bloqué. La rue se soulève depuis 2 mois et demi, voire plus, pour exiger le départ du président. Hier, lors des commémorations de la bataille pour l'indépendance, il n'a d'ailleurs pas osé montrer le bout de son nez.
Oula ! C'est pas le pire, les enfants. Moi, je vous préviens, c'est 5 minutes, montre en main.
Nous donner à voir ce qu'on appelle les migrants autrement, c'est par exemple ce que fait le Midi Libre, en nous racontant les retrouvailles assez miraculeuses entre un jeune Ivoirien exilé à Montpellier et le médecin qui l'a soigné à son arrivée à Lampedusa. Tout ça dans le contexte d'un festival de cinéma. Ah, la magie du cinéma!
Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs.
C'est cela, oui. L'état d'une civilisation se mesure aussi à l'état de ses latrines. C'est pourquoi cette journée mondiale des toilettes est plus sérieuse que son intitulé. Question de survie pour les 3/4 de la planète. En Occident, les articles de presse nous mettent en garde sur l'utilisation du smartphone au petit coin.
Dis-moi, ma chérie, je voulais te demander, selon toi, à partir de quel moment on considère qu'une constipation s'aggrave?
Pas de transition entre les sujets.
Non, ça ne fait pas de transition.
Et voici...
pas avec moi non plus.
Et voici celle qui connaît le tiercé gagnant de la chronique, Juliette Arnaud.
Avec une équipe aujourd'hui de grands voyageurs, celle qui est née loin et qui chaque semaine vient de ce même loin jusqu'à nous. Elle est née tout à côté d'un charmant petit village de l'Oise, au nom prédestiné, non je n'invente rien, à côté d'un petit village appelé Cuise-la-Motte.
Constance. C'est vrai. Bonjour à tous. Donc vous l'avez dit, aujourd'hui c'est la journée mondiale des toilettes, donc je vous propose une chronique bien torchée.
Oh, ça c'est bon.
Enfin, ensuite, celui qui piste le chaland au micro au point se mêle au vent le week-end dernier à Vesoul, le week-end prochain à Marseille, une pierre qui roule et qui ne voit pas plus les frontières territoriales que cette fine ligne entre bonne et mauvaise foi. Guillaume Meurice.
Bonjour à tous, moi je suis allé ce matin au grand congrès des maires de France, c'était super et j'ai rencontré des élus pleins d'ambition.
On est parti d'en bas et puis on n'est pas monté bien haut.
Voilà, l'ambition française.
Enfin, on ne se fiera pas à son déguisement de marquise de Saint-Germain-des-Prés. En vrai, c'est l'émissaire du pays des Cévennes, répandant en loose day la doxa protestante calviniste, Clara Dupont-Monod.
Bonsoir. On va parler du livre de notre invité.
Car voici celui qui a eu l'inconscience d'embarquer avec nous. Et je vous laisse nous annoncer qui vous êtes.
Louis-Philippe d'Alembert.
Yes, il est là. France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud.
Première fois que nous recevons un Louis-Philippe. Oh, cher Louis-Philippe d'Alembert.
C'est le dernier. Hein.
Louis-Philippe d'Alembert, vous êtes romancier, vous publiez Mur Méditerranée chez Sabine Vespizer, éditeur. C'est un roman à valeur documentaire, nous dit Clara Dupont-Monod. Et en effet, nous suivons 3 femmes depuis leur foyer, depuis leur maison, jusque dans le bateau qui doit les amener en Europe. On accompagne chacune durant tout leur trajet clandestin. Il y a Dima, la Syrienne, qui fuit la guerre. Shoshana, la Nigériane, qui fuit la sécheresse. Semar, l'Érythréenne, qui fuit la dictature. Elles ont chacune 3 religions différentes, 3 personnalités très différentes. Mais elles sont réunies dans le même bateau. Enfin, dans le même rafio, on va dire, sur l'une sur le pont.
Les deux autres dans la cale, parce qu'il y a une première et une seconde classe, même en enfer. Voilà pour la partie fiction, romanesque. Mais c'est un roman inspiré du sauvetage de réfugiés par un pétrolier danois en juillet 2014. Et vous avez recueilli beaucoup de témoignages et enquêté pour écrire cette fiction. Alors d'abord, Louis-Philippe d'Alembert, comment est-ce qu'on fait pour décrire ce qu'on peut appeler des camps tenus par les passeurs en Libye, le fond de la cale d'un ferry tout pourri qui menace de rompre à chaque vague, la promiscuité, la baston des vagues, la puanteur, la mort, la férocité. Je dirais presque dans quel état se met l'écrivain pour réussir à décrire tout ça.
Oui, c'est très difficile. Dans quel état, d'abord, il faut avoir du rhum à côté de soi.
La base. Ça,
ouais. Oui, parce que n'oubliez pas, je suis d'Haïti, donc forcément, oui. C'est là où il y a le meilleur rhum de la Caraïbe, donc
mais
du
il,
monde.
Il faut se donner du courage, vous voulez dire, pour écrire
justement,
ça,
justement, et puis, voilà, j'ai été sur place, comme vous avez dit, j'ai beaucoup, beaucoup parlé à des réfugiés.
À Lampedusa,
donc à des gens qui ont... eux-mêmes qui travaillent avec les réfugiés depuis plus d'une dizaine d'années. Et à partir de là, je me suis aussi mis en condition, j'ai envie de dire, hein, parce que je suis, comme beaucoup de Caribéens, je ne sais presque pas nager. Donc j'ai un rapport difficile à la mer. Donc j'ai été, j'ai envie de dire, jusqu'au fond de moi pour essayer de trouver la peur que ces gens-là pouvaient ressentir, ceux qui sont enfermés au fond de la cale.
Ah oui, et vous la transmettez parfaitement, hein, c'est sûr. Clara Dupont-Monod.
Oui, il y a une scène dont on parlait tout à l'heure, la scène de Sabratha en Libye, qui est une espèce de gigantesque entrepôt dans lequel on parque les réfugiés féminines, et les passeurs et les gardes se servent en fait pour violer l'une. Parfois, il y en a une qui rentre pas. Ils la louent aussi à leurs amis. Mais ça, à un moment, tout le passage, on en parlait avec Juliette et Charline tout à l'heure, c'est quelque chose d'extrêmement fort, comme vous décrivez ça. Là aussi, vous êtes allé sur place ou comment vous avez fait pour vous documenter à ce point ?
Non, je n'ai pas été sur place. J'ai beaucoup lu, j'ai écouté aussi beaucoup de reportages. Et puis, je dis souvent que j'ai eu une chance formidable pour écrire ce roman. J'ai été élevé par des femmes, tout simplement. C'est-à-dire, ma vision du monde est complètement féminine. Ce qu'elles ressentent parfois, je pense pouvoir le ressentir. Je n'ai pas grandi avec un père que j'ai pas connu, qui est mort, j'avais quelques mois. Donc, dès le départ, je n'ai pas de figure, j'ai envie de dire, paternelle dans ma représentation du monde. Donc, ce que ressentent les femmes, c'est ce que je ressens moi-même, hein, en fait, au fond. Et c'est la raison pour laquelle ça n'a pas été difficile pour moi de me mettre dans la peau des femmes. Et j'ai été élevé par ma grand-mère, par ma mère, avec mon frère aîné, on appelait ma grand-mère la générale. Donc, c'est elle qui commandait. Donc, du coup, pour moi, ça a été, d'une certaine façon, assez simple. Et aussi, j'ai envie de dire, bon, un peu, même si c'est peut-être pas le lieu de l'émission, j'ai été très tôt militant féministe, en fait, quand j'avais 18-19 ans déjà en Haïti.
Et là, vous allez emballer Juliette direct. Ah oui,
c'est vrai. Je ne savais pas du tout.
c'est quoi militant féministe en Haïti à cette époque-là?
C'est un pays assez paradoxal quand même. On est dans une sphère, donc c'est l'Amérique latine, hein, Haïti, donc avec beaucoup de machos. Mais en même temps, avec des femmes qui sont très très fortes, j'ai envie de dire, et des femmes qui, du fait de l'histoire du pays, ont l'habitude de porter la société sur leur dos. Ce sont ce qu'on appelle en créole le potomitan, un peu la pierre angulaire de la société. C'est sur elles que repose une bonne partie de la société, et malgré tout, elles sont victimes, justement, de tout ce qu'on sait, tout ce qui se passe dans le monde, et en même temps. Donc, très tôt, j'ai fait partie du mouvement féministe haïtien. Et à partir de là, j'ai pris conscience encore plus que l'éducation, je recevais déjà à la maison, en fait.
Mais même au-delà de leur force, parce que les trois personnages féminins sont des personnages effectivement assez costauds, ce que vous racontez sur ces femmes, c'est leur capacité à se lier les unes aux autres et à pratiquer la solidarité entre elles. La relation entre Semar et entre Shoshana, l'érythréenne et la nigériane, vous décrivez comme une maman koala avec son petit. Et parfois, quand on parle des femmes, c'est pour raconter leurs disputes. Et là, vous racontez au contraire ce que ça peut être la force d'une amitié. Ouais, d'une grande amitié féminine.
Oui, la force, mais en même temps, elles ne sont pas toutes des saintes non plus. Ah, quelqu'un comme Dima, par exemple, ne l'est pas non plus. C'est-à-dire, donc, j'ai essayé d'être le plus objectif possible en me mettant dans la peau de chacun des personnages, d'être en empathie avec les personnages.
Dima, par exemple, la Syrienne, elle ne veut pas monter dans le même rafio que les deux africaines. Ça, c'est la réalité aussi, donc vous n'êtes pas allé vers l'angélisme. C'est-à-dire, ces questions-là, vous les abordez de front aussi dans le roman.
Ah oui, parce que on oublie souvent, quand on parle de la traite, on parle souvent de la traite occidentale que tout le monde connaît, mais on oublie et la traite orientale et ce que ça a laissé comme conséquence dans les rapports humains entre, j'ai envie de dire, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, et l'Afrique subsaharienne, par exemple.
Et tout ça s'emporte dans le voyage clandestin de ces personnages. Autant vous dire qu'on a adoré ce roman. Je pense que vous l'avez senti dans la façon dont on interroge aussi Louis-Philippe d'Alembert. On va donc pouvoir y revenir. Je rappelle que c'est un roman, donc c'est de la fiction. Donc il y a aussi une histoire haletante. Donc ça s'appelle Mur Méditerranée.
Beau titre, hein.
Ouais. Chez Sabine Vespizer, éditeur. Je rappelle que vous avez reçu le prix de la langue française le mois dernier, que vous êtes arrivé deuxième derrière Karine Thuil au prix Goncourt des lycéens. Les jeunes en ont bien.
C'est mon côté poulie d'or.
Ah voilà, le poupou de la littérature est avec nous jusqu'à 18h sur France Inter. My memory's cold on you. Even if I try to think of something new, I can't live out of you. I'm not feeling on my mind. Feeling on the pain. There's only one thing I can be certain. It's true. I'm still going. Brothers sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Il est 17h21, voire 22.
Quasi.
À Strasbourg, Limoges, à Lille, à Tourcoing, à Amiens.
Vesoul aussi, je crois.
Vesoul, ouais. Évidemment.
Oui, évidemment, Vesoul.
Qu'est-ce notre invité.
Vesoul rien, au contraire.
Louis-Philippe d'Alembert est avec nous, romancier qui publie Mur Méditerranée. Pour l'entourer, Juliette Arnaud.
Constance, Clara, Guillaume.
Allez.
Et de la news en veux-tu en voilà.
Moi je suis socialiste et je l'assume.
Le journal de presque 17h17.
En même temps, d'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on parlera de l'état de la gauche.
L'occasion d'aborder le douloureux sujet du coma artificiel.
On parlera aussi de Frédéric Becbédé.
À l'occasion d'aborder le douloureux sujet du coma éthylique.
Et enfin, on fera un point sur l'affaire Polanski.
À l'occasion d'aborder le douloureux sujet de l'euthanasie artistique.
Et on commence avec l'actualité politique.
Oui, enfin avec le PS, Parti Socialiste. Jean-Christophe Cambadélis se dit prêt à participer à la reconstruction de la gauche.
Ce qui pose une vraie question, quel est le con qui a demandé son avis à Cambadélis?
On ne sait pas, mais il faut arrêter ça. Hein. Sinon, un jour, je ne sais pas, Jean-Pierre Raffarin sera invité de la matinale d'Inter.
Oh mon Dieu, n'en parlez pas. On enchaîne.
On enchaîne avec les élections municipales à Lyon.
Pour sa campagne, Gérard Collomb utilise une photo datant de 2013.
Il a bien fait de se rajeunir, Gégé, puisque en 2013, il avait seulement 95 ans.
Municipal encore, mais à Paris, cette fois, Benjamin Griveaux déclare dans Le Figaro, je le cite, « Je suis en train de bâtir une relation charnelle avec les Parisiens. »
Oh là 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 là, putain, ça m'excite. J'ai un début d'élection. C'est un jeu de mots.
Mais oui. À voir si les Parisiens, eux, sont prêts à se faire baiser.
On enchaîne.
Oui, depuis jeudi dernier, François Bayrou est vivement critiqué pour avoir jeté sa veste sur l'une de ses collaboratrices.
Et oui, alors que d'habitude, il la retourne.
Collaboratrice?
Non, mais non. C'est pas DSK non plus. On enchaîne.
Moment d'égarement. Ouais. La précarité étudiante à présent. Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, a pris une décision pour lutter contre le mal-être étudiant et prévenir les suicides. Elle a donc...
Attendez, parce que je sens que ça va être complètement dingue, cette histoire.
Eh bien, elle a...
Dites-le, parce que je supporte pas le suspense, là.
Eh bien, elle a promis la création d'un numéro d'appel d'urgence.
Oh, la malade! Quoi de pour cingler? Comme j'aimerais pas être la précarité étudiante, elle doit trop flipper la précarité étudiante.
Tu veux te suicider? Envoie Vidal au 8-12-12. Vidal au 8-12-12.
International, à présent.
Au Brésil, la déforestation en Amazonie est au plus haut depuis 2008.
Le président Bolsonaro confirme, je cite, que les arbres sont des gros PD d'immigrés drogués à exterminer.
On passe à la suite. Justice, oui. La Cour de cassation a justifié le licenciement d'un manager qui avait organisé un team building dont l'une des épreuves consistait à marcher sur du verre pilé. Ouais,
sans doute un manager d'Europe 1 qui préparait les futures audiences. Justice encore, on y va.
La chasse aux fraudeurs fiscaux est bientôt ouverte sur Internet.
Isabelle Balkany vient de fermer son compte Facebook.
Et c'était pourtant le seul compte qu'elle avait en France. Ouais, c'est dommage.
Emploi à présent. Selon une étude réalisée par l'université de Yale lors d'un entretien d'embauche, tout se joue sur vos 7 premiers mots.
Rappelons ceux de Christophe Castaner à son entretien d'embauche.
Oui, attention. Oh, monsieur Macron, votre braguette est ouverte.
Le compte est bon. Quiz à présent.
Allez, le quiz. Reconnaîtrez-vous cet homme qui a pris la défense de Roman Polanski?
C'est un homme extrêmement bon. Je ne peux absolument pas imaginer ce qu'on lui reproche actuellement.
Voilà. Alors, Juliette? C'est
Frédéric Mitterrand.
Bien joué, Frédéric Mitterrand.
Qui prend la défense de Polanski, c'est beau.
Oui,
c'est beau.
Et vous savez où j'ai vu cette info?
Non.
Sur le site de Jean-Marc Morandini.
Morandini, ouais. Polanski, Mitterrand, il manque plus que Michel Fourniret et on est bon.
Allez. Ok, protection de l'enfance toujours.
Oui, bonne nouvelle, un gamin de 5 ans a été interpellé dans une école avec de la cocaïne.
Attendez, parce que pourquoi c'est une bonne nouvelle ça?
C'est rassurant de savoir que les enfants de Frédéric Becbédé sont encore scolarisés.
Allez.
Sur cette bonne base, c'est-à-dire ce matelas, cette couche d'actualité, nous allons rebondir tout de suite en abordant les sujets plus sérieux avec notre invité Louis-Philippe d'Alembert.
C'est un peu la douche écossaise dans cette émission, je le rappelle.
Sans transition. C'est beaucoup plus sérieux. Effectivement, Haïti est à nouveau en plein chaos. Et c'est peu de le dire, la rue se soulève depuis 2 mois et demi pour dégager son président, Jovenel Moïse, pour sortir de la crise. La paralysie du pays est totale. Les soins, les écoles, les services publics, le commerce sont à l'arrêt et les tribunaux sont fermés. 42 personnes ont perdu la vie rien qu'en 2 mois et demi, puisqu'il y en a eu beaucoup plus depuis plusieurs mois. Et ici, la moitié des gens qui ont été tués l'ont été parce que la police tire à balles réelles sur la population. Rien n'aura été épargné à ce pays, petit par la taille, immense par le courage.
Adieu, mon petit pays. Adieu. Je me souviens des rues et des nuits de Port-au-Prince. Et je suis toujours un étranger.
Raphaël, avec nous pour parler d'Haïti. Louis-Philippe d'Alembert, parmi toutes les crises et les catastrophes qu'a connues Haïti, Quelle est la particularité de celle-ci? Comment est-ce que vous l'observez et qu'est-ce qui vous frappe dans ce qu'on appelle les événements très très pudiquement?
Oui, ce qui me frappe, c'est en fait les gens sont dans la rue pour deux choses. Déjà pour combattre la corruption, et ça c'est le plus important. Ensuite, pour combattre les inégalités sociales qui ne cessent de s'aggraver, j'ai envie de dire, au fil des ans. C'est surtout ça. C'est, en fait, bon, c'est un pays en crise structurelle, mais là, c'est vraiment un moment où les gens se disent que non, ça ne peut pas continuer comme ça.
Mmh. Alors, y a un reportage notamment de Florence Omnas qui date du mois de mars, qui nous parle d'une génération fin du monde. Ce sont ces jeunes qui ont 30 ans aujourd'hui, qui sont dans la rue aussi, et qui étaient à peine adultes au moment du tremblement de terre de 2010. Je rappelle 230 000 morts. Vous la voyez comment, cette génération-là? Est-ce que vous pensez qu'elle peut y arriver et que c'est sur elle qu'on peut compter et qu'elle représente un espoir? Parce qu'elle a quand même, elle avait 20 ans quand il y a eu le tremblement de terre. Là, elle affronte un chaos, une crise encore vraiment très, très, très profonde.
Je ne sais pas si elle peut y arriver, mais je sais une chose, elle doit y arriver parce qu'elle n'a pas le choix. Parce que c'est un tout petit pays hein, qui m'a peine de la taille de la Belgique, un peu moins, avec 11 millions d'habitants, donc c'est des jeunes qui n'ont pas d'autres issues, qui ne peuvent pas aller aux États-Unis, qui ne peuvent pas aller au Canada parce qu'on leur donne pas de visa et qui ne peuvent pas aller ailleurs. Donc forcément, ils sont obligés de se battre sur place pour que cette situation puisse changer. En plus, c'est une génération, si vous voulez, comparativement à la mienne, c'est une génération qui n'a pas connu la dictature. C'est-à-dire que nous, on est nés, on a grandi sous la dictature, donc on avait quelque part un objectif qui était de renverser la dictature. Mmh. On y est arrivé. Mais eux, ils n'ont pas connu cette dictature-là, donc ils ont connu, on va dire, entre guillemets, la démocratie. Donc, tous les 5 ans, il y a un changement de gouvernement. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est réduire les inégalités sociales et réduire la corruption dans le pays.
Vous dites, les jeunes, ils doivent, je ne sais pas s'ils peuvent, mais ils doivent. Deux des personnages du roman sont jeunes et elles ne peuvent pas non plus. Elles choisissent l'exil, mais elles ne peuvent pas techniquement. Elles n'ont pas non plus accès à des visas et elles passent outre. Elles choisissent une voie illégale. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes haïtiens qui ne voient que cette solution, l'exil? Ils vont où?
Ils vont le plus souvent, ils essayent d'abord d'aller aux États-Unis. Donc c'est la première tentative, je veux dire. Après, ils essayent le Canada. Et ceux qui n'y arrivent pas vont essayer la République dominicaine. N'oubliez pas que l'île est partagée en deux, entre Haïti et la République dominicaine, donc clandestinement souvent, pour certains d'entre eux. Et depuis, on va dire, justement, le tremblement de terre, il y en a de plus en plus qui vont au Brésil et au Chili. Donc c'est des pays qui donnent régulièrement des visas aux Haïtiens. Par exemple, un pays comme le Chili a régulariser tout récemment, a proposé plutôt de régulariser près de 200 000 Haïtiens. Donc finalement, il y a eu 130 000, mais c'est énorme pour des pays de cette taille-là. Le Brésil, avec l'arrivée de Bolsonaro, a réduit le nombre de visas, mais avant, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Haïtiens qui essayaient de s'installer plus ou moins, mais d'autres qui, pour eux, le Brésil ou le Chili, c'était juste une étape. D'accord. Une étape vers les États-Unis ou vers le Canada, où ils ont de la famille souvent, et ils ont l'impression aussi que, économiquement, ce serait plus facile pour eux, en fait.
Louis-Philippe d'Alembert, avec nous jusqu'à 18h. Vous écoutez Par Jupiter. Et Constance, il y a une journée mondiale aujourd'hui qui est vraiment taillée pour une chronique, j'ai l'impression.
Je crois qu'elle m'attendait. Aujourd'hui, mardi 19 novembre, journée mondiale des toilettes. C'est, je crois, l'équivalent de la Saint-Valentin pour tous les scatophiles. Alors, bonne fête à tous les coprophages. Mais n'oublions pas non plus de souhaiter une bonne fête à tous ceux qui s'investissent au quotidien pour faire sortir du caca, en plus de par leur cul, par leur bouche. Oui, bonne fête aux gens qui disent bien de la merde. Et ça fait beaucoup de monde. Spéciale dédicace aux gens qui disent devant un poney et un cheval dans une pâture à leur gosse « Regarde Benjamin, comme c'est joli, c'est une jument et son petit poulain. » Alors que la jument, elle a une énorme bite. C'est d'ailleurs assez étonnant, cette journée mondiale des toilettes, qu'elle n'ait pas été regroupée avec celle d'après-demain, à savoir le 21 novembre, journée mondiale de la télévision. Certainement trop de matière fécale dans la même journée, ça devait déborder.
Bim, chronique engagée, artiste en colère, tremble société. Mais arrêtons de tourner autour du pot, si je puis me permettre l'expression, et parlons concrètement, parlons water, WC, petit coin, cabinet, wawa, chiotte, lieu d'aisance, puisque nous passons en moyenne 3 ans de notre vie aux toilettes, alors que nous ne passons que 115 jours à rire, ce qui prouve bien que trop souvent dans la vie, on se fait bien chier. Au cours de notre vie, nous produisons en moyenne 40 000 litres d'urine et 5 tonnes d'excréments. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur cette planète et à part Ariel Dombal, tout le monde chie. Ce qui signifie qu'il faut arrêter de chier, sinon on va tous mourir noyés dans nos excréments. Non, pas de panique, car béni soit le tout à l'égout. Gloire aux stations d'épuration, louons les kilomètres d'autoroutes souterraines, véritable parc Astérix pour nos petits caca. Youhou, personnellement, j'adore aller aux toilettes. Pas que je sois particulièrement fascinée par mes selles ou les œuvres de Jacob et de Lafont, mais plus parce que je trouve que c'est le dernier endroit où on est peinard. Les toilettes, c'est un petit bunker à l'abri des « On mange quoi ce soir ? T'as pensé à laver mon pantalon de judo ? Mais je le trouve pas ! Maman, le chat, il a vomi dans mon cartable !» Quand on est sur le trône, on peut l'espace de quelques minutes être roi ou reine d'un petit royaume fait de faïence et de papier triple épaisseur, où il fait bon vivre, enfin, à l'abri des gens qui n'ont honte de rien et où le travail en retard peut bien attendre encore un petit peu. On peut, pendant ce précieux fragment de temps suspendu, enfin oublier l'entrave permanente des chaînes que le quotidien et la réalité serrent bien trop fort autour de nos coups. C'est pourquoi il faut sans culpabilité profiter de cette éphémère pause pour oublier les hurlements du monde agonisant et notre absurde condition humaine. Pardon. J'ai beaucoup chié en lisant les grands auteurs. J'ai pété en savourant du Baudelaire. J'ai pissé en comprenant du Victor Hugo. Et j'ai même eu la chiasse en adorant du Simone de Beauvoir. Allez, popoésie quand tu nous tiens. Il y a dans ce monde encore 2,4 millions de personnes qui n'ont pas accès aux toilettes et donc à la littérature, et c'est révoltant. Alors lançons un grand mouvement révolutionnaire pour l'accès libre et illimité aux toilettes pour tous. Au lieu du cri égoïste qui dit « c'est occupé !» ouvrons grand les portes des WC en criant « c'est libre ! Libre !»
Constance, il n'y avait vraiment que vous pour manier avec délicatesse ce sujet, effectivement. Et on remercie les effets sonores, bien sûr, à la technique Rémi Sistiaga, à la réalisation François Audouin, parce que je pense qu'il a...
C'est une réalisation derrière.
Louis-Philippe D'Alembert, on va revenir à la littérature. Surtout, restez avec nous, ainsi que vous, chez vous.
cesser. Oui, nous, j'allais.
Respectez-nous, Pascal Danaé, pour rester dans les Caraïbes, avec Louis-Philippe d'Alembert qui nous accompagne, qui publie Mur Méditerranée, un roman paru chez Sabine Vespizer, éditeur, prix de la langue française récemment, au mois d'octobre. Et puis deuxième prix Goncourt des lycéens. Donc ça veut dire quelque chose. Et puis choix Goncourt de la Pologne, choix Goncourt de la Suisse. Il y a vraiment que la France qui a pas. C'est... Vous étiez dans la liste. On dit quoi, la shortlist?
La première liste
du concours. Mur Méditerranée, on va y revenir tout à l'heure, bien sûr, Louis-Philippe d'Alembert, notamment avec Clara Dupont-Monod. Il y a aussi Constance, il y a bien sûr Juliette qui co-anime aujourd'hui, et il en manque un, c'est qui?
C'est moi.
Ah, c'est vous, c'est Guillaume Meurice.
Oui, eh bien, les Français aiment leur mère, figurez-vous. Mère, M-A-I-R-E, hein, parce que sinon leur maman, bah, je dirais que ça dépend. Les enfants de Sibeth Ndiaye, par exemple, sont pas dingues de leur mère. Hein, ils mangent des sandwichs au fioul depuis Lubrizol, là, pour prouver qu'il n'y a pas de danger, donc ils en ont un petit peu ras-le-bol. Alors, à ne pas confondre non plus avec Jean-Claude Gaudin et Gérard Collomb, qui sont mères, mais avec des physiques de grand-mère, vous voyez, c'est un petit peu technique. Eux, quand ils se représentent en disant « j'en remets une couche », bah, c'est au sens littéral, hein, ils remettent une couche, donc faut faire très attention. Mais là, mère, donc, on parle vraiment du premier représentant d'une commune, voilà, pour faire vite. Alors, il y en a près de 35 000 en France, et ils se réunissent en ce moment dans leur congrès annuel où je suis allé ce matin. Alors, il manquait quand même mon maire préféré, Patrick Balkany. Hein, oui, il est retenu pour des raisons de... Bah de santé, hein, si j'ose dire, pour faire un petit peu d'humour, parce qu'on en a besoin. On embrasse notre Nelson Mandela des Hauts-de-Seine et on salue Isabelle qui a repris le poste. Pourquoi j'en parle? Eh ben c'est parce que les femmes à des postes de maire, c'est 16% en France, donc c'est pas dingo. Alors je suis allé questionner le rôle des femmes dans la politique locale.
Je suis maire depuis 22 ans et j'ai pas encore décidé si je me représentais aux élections futures.
Eh oui, c'était ma question d'après.
Eh ben mon épouse ne le souhaite pas.
Ah.
En réalité, il faut que je négocie avec mon épouse, oui.
Il faut que vous choisissiez entre votre commune et votre femme.
Oui. Je vais peut-être quand même reprendre le collier pour quelques années.
Allez hop, le choix est fait, terminé. Ça, c'est la négociation. Si le GIGN nous écoute, là, voilà, c'est une belle leçon. Alors, c'est pas Pascal le grand frère, c'est Pascal le grand-père. Ça, c'est bien. Alors, qu'en est-il dans sa commune, lui?
Non, mais la place des femmes, moi, je souhaite qu'elle soit l'égale de la place des hommes. Mais on a du mal à faire bouger les lignes. Là, j'ai... plein de candidates futures, intelligentes, voire même mignonnes.
Il faut être mignonne quand on est une femme et qu'on fait de la politique.
Oh, bien sûr que non, c'est ma façon à moi de valoriser la femme.
Voilà, bon ben ça je dirais, chacun sa façon de valoriser la femme, hein. Intelligente, voire même mignonne. C'est pas du Alfred de Musset, mais chacun son style. J'en ai trouvé d'autres, des maires dans d'autres styles. Il y a des maires qui sont pour la parité en politique. Hein.
Quand j'étais député, j'ai voté la parité.
Ouais.
La parité... Pas pour que les femmes puissent occuper un rôle, pour que les hommes puissent continuer à exister. Parce que nous allons disparaître, les hommes. Donc la parité, c'est pour défendre les hommes.
Ah, j'ai pas compris la logique, là.
Et oui, si les femmes gagnent du terrain, et il n'y aura plus d'hommes au pouvoir.
Ah oui, vous voulez la parité parce que vous voulez 50% d'hommes. Oui,
bien sûr.
Ah, pas con. Ah non, attendez, c'est pas con, le gars, il a anticipé. Il sait qu'on va se faire grand remplacer par les femmes, que l'ennemi est un ennemi intérieur. C'est du génie, il a pensé même au-delà de Zemmour, ça, c'est incroyable. Et il a raison, regardez aujourd'hui. Hein, heureusement que vous êtes là, Louis-Philippe, parce que sinon j'étais seul face à elle. Merci du soutien. Hein, on est là, on se serre les couilles, hein, comme on dit. Allez. Alors, la parité au conseil municipal, la loi, en fait, pour les communes de 1000 habitants, c'est obligatoire, la parité. Et ça, ce maire-là, il est bien au courant.
Hein. On est juste au-dessous de 1000, donc on n'a pas la parité. Donc c'est super pour nous. On ne prend pas de femmes, on n'est pas obligé. C'est le top, hein.
Et alors si vous...
Et on ne veut pas augmenter la population pour ça. Et comme ça, moins de 1000, on est peinard, ils ne nous emmerdent pas trop, ils nous laissent tranquille.
Pourquoi vous voulez pas de femmes au conseil municipal?
Bon, parce que c'est la galère, j'en avais deux la première fois, au premier mandat, elles m'ont pourri la vie. Hein.
Ah oui, bah de toute façon, elles savent faire que ça. Elles disent qu'elles donnent la vie, mais c'est pour la pourrir derrière, ça sert à rien. Pauvre mère qui doit virer des gens de sa commune pour pas qu'elle fasse plus de 1000 habitants. Vous imaginez le truc? Non, nous, on prend pas de migrants. Non, on n'est pas racistes, c'est juste qu'on aime pas les femmes. Ah bon, d'accord. Pauvre, bah, allez, on continue avec le peu de femmes mères. Hein,
non, ils sont plus nombreux, que nous. Vous souvenez pas de 1946, vous n'étiez pas né. Vous, 46, non. On a donné le droit de vote aux femmes. Après, ils ont eu le droit au compte en banque et maintenant, on les retrouve commandant de bord dans les avions et en politique, elles sont majoritaires.
C'est 16% dans l'ensemble de la France.
Oui, mais on fait dire aux chiffres ce qu'on veut.
Ah ben là, le chiffre, il dit 16%, quoi.
Ah mais c'est pas le chiffre qui le dit, c'est vous.
Ah ben moi, je dis le chiffre parce que c'est les statistiques.
Vous l'avez lu, mais vous avez pas fait le calcul.
Ah mince, c'est vrai. Vous pensez que c'est plus, alors?
Ah ben bien sûr.
Ah merde, oui, c'est vrai, j'ai pas fait le calcul moi-même, en fait. J'ai pas compté les 35 000 communes. Alors là, coup de bol, je tombe sur un maire qui est statisticien et qui, à mon avis, a bien bien fait le boulot. Bon, il est statisticien en freelance, hein. Il fait ça sur son temps libre, il a pas le CAP, mais c'est plutôt sympa. De toute façon, les chiffres, c'est de la merde.
Ah mais moi, je regarde pas les chiffres, moi, je regarde la vérité. Que les chiffres, c'est que les politiciens qui ont inventé les chiffres, ou les journalistes, les médias. Mais quand on regarde la vérité, on sait que ce sont les femmes qui mènent le monde.
Vous voyez comme quoi, je savais pas.
Ah ben voilà, il oui, faut voyager, il faut regarder.
Vous faites des statistiques comme ça un peu à but de...
Non, ce sont les miennes, ça.
Oui, c'est vos moi, statistiques à vous. Chiffres. C'est comme ça un peu au pif, quoi.
Ah, c'est pas du pif. Non. C'est la vérité vraie, la vérité réelle.
La vérité réelle, hein. Celle qui veut que les hommes ne veulent rien céder, vous avez vu, à leur hégémonie. Celle qui veut que c'est pas l'homme qui prend la mairie, c'est la mairie qui prend l'homme. Celle d'un pays où l'on aimerait saluer plus souvent la victoire des mairesses et la défaite des maires.
Guillaume Meurice, merci beaucoup. Vous avez fait votre chronique à côté d'un féministe de la première heure.
Ah oui, alors il y a un petit peu de travail.
N'est-ce pas ? Louis-Philippe d'Alembert, qui publie Mur Méditerranée. Juliette Arnaud, cela vous a inspiré le choix du deuxième sujet.
Le Midi Libre nous raconte, je fais mon petit Claude Askolovitch, le Midi Libre nous raconte l'histoire d'Ibrahim, jeune Ivoirien exilé qui, ayant trouvé refuge à Montpellier, est reconnu par l'homme médecin italien qui l'a soigné et accueilli lors de son arrivée catastrophe à Lampedusa 2 ans plus tôt. Parfois, les histoires des migrants sont pleines d'espoir. Sauf que, bien sûr, cela nécessite la présence d'une belle âme. Et tout le monde n'en est objectivement pas équipé.
Allez, viens avec moi.
Comment ça, viens avec moi?
Là, tu vas sur le bateau pour les aider, les accompagner jusqu'aux tentes médicalisées.
Ah non, je peux pas.
Avec courage, on a besoin de tout le monde ici.
Non. Oh, je peux pas monter sur ce bateau.
Fais un effort une fois dans ta vie, merde.
Non, mais j'aurais adoré les aider, mais j'ai pas envie de choper une saloperie. C'est
alors, retourne maintenant dans la voiture. T'es un minable, Romain. T'es pitoyable.
Voilà, c'était le film Superchondriaque 2 et avec Danny Boone, et vous aurez reconnu Kad Merad. Alors, on a choisi cet article, Louis-Philippe, parce que ce médecin italien, il nous a rappelé tous ces gens qui aident à Lampedusa, les toubibs, les gens qui bossent dans les ONG, les curés. Bon, bah là, c'est, en même temps, c'est un peu la moindre des choses, c'est leur boulot, curés. Les toubibs, les agents administratifs, les maires, etc., etc. Et vous avez passé un mois à Lampedusa, et vous avez rencontré des tas de gens comme ça qui vous ont donné une partie de l'histoire. Et en plus, vous dédiez votre livre, enfin la deuxième dédicace de votre livre, la première est pour Angela Merkel, et la deuxième,
c'est mon côté provocateur.
Vous écrivez aux amis de Lampedusa qui se battent pour redonner leur dignité aux vivants comme aux morts. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit tous ces gens? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, en plus de la matière pour le livre?
Ce sont des gens formidables, je trouve, d'abord, parce que juste pour donner un exemple, il y a parmi ces associations d'accueil des réfugiés, des gens qui vont passer 2 ans ou 3 ans à enquêter pour trouver juste les traces de morts qui sont arrivées sur la rive et de retrouver les noms et les prénoms et pour pouvoir mettre ces noms-là sur une stèle. Et ils vont passer 2-3 ans à enquêter là-dessus. Donc je trouve ça formidable. Je suis tombé par exemple aussi sur un vieux pêcheur de plus de 80 ans qui me disait que moi, écoutez, quand je partais, et il y a de ça une quarantaine d'années, pêcher, parfois, je rencontrais une intempérie, j'atterrissais en Tunisie. J'étais recueilli par les gens qui me nourrissaient pendant une semaine, qui m'aidaient à réparer mon bateau, et puis je repartais. Et du coup, lui, il a trouvé ça normal, aujourd'hui, de tendre la main à son tour. Et il me racontait des histoires en me faisant voir sur son iPhone des photos de ses petits-enfants, comme il les appelle, parce que toutes les filles, souvent des érythréennes, qui ont été accueillies et chez eux, donc chez lui et chez sa femme, qui sont partis ensuite en Suède ou en Allemagne ou en Angleterre, à chaque fois qu'elles accouchent, elles reviennent avec l'enfant pour qu'il leur donne, comment dire, la bénédiction. Et il trouvait ça formidable. Il m'a dit, j'ai plein de petits-enfants. Donc c'est des gens extraordinaires. Et le médecin dont vous avez parlé tout à l'heure, Pietro Bartolo, et c'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup. Et c'est en lisant ce qu'il avait écrit que j'ai pu avoir quelques détails. Par exemple, les gens qui sont morts dans des bateaux et qui ont fait naufrage, comment il arrivait à savoir que ces gens-là étaient morts, noyés, en restant prisonniers des cales, c'est en regardant la pointe de leurs doigts qui était tout noir, ou bien sous les ongles de la peinture du bois, parce qu'ils essayaient de gratter pour sortir. Et là, c'est vraiment des gens formidables. Vous avez parlé du prêtre aussi, il y a un curé
qui s'appelle Don Carmelo La Magra, qui est La Magra, veut dire la maigre, c'est assez rigolo parce qu'il est assez corpulent. Donc, mais c'est quelqu'un extraordinaire. Et quand il y a des gens qui sont un peu du côté de l'extrême droite, on va dire, de la Lega Nord, qui lui disent, oui, mais écoutez, vous ne pouvez pas mettre ces gens dans l'église, ces gens-là viennent ou sur le parvis de l'église ou dans l'église même. Il dit, écoutez, vous savez, moi, la maison ne m'appartient pas, je suis juste le gardien de la maison. Si vous voulez porter plainte à son propriétaire, le monsieur qui est là-haut. Donc, c'est quelqu'un d'extraordinaire à ce niveau-là.
Et d'ailleurs, le médecin italien qui est dans l'article du Midi Libre, il dit la même chose que vous. Il dit qu'il est un fils de pêcheur lui-même, et donc il a été élevé dans la tradition, dans l'idée que la Méditerranée, c'était un pont. Et c'est devenu une muraille infranchissable.
Tout à fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont le réflexe des gens de mer. Et lui, il a une histoire aussi formidable. Il est d'une famille nombreuse. Et c'est le seul qui a fait des études aussi poussées. Et il a su, par la suite, d'après ce que j'ai appris, que ses parents ont tiré au sort pour que l'un des enfants aille dans le nord et fasse des études. Et il a appris beaucoup plus tard que, en fait, son père avait triché. Son père voulait que ce soit lui qui fasse ses études, en fait.
Voilà. Donc, nous sommes partis de cette histoire dans le Midi Libre où un réfugié a retrouvé
Ibrahim.
Deux ans après, dans un festival de cinéma à Montpellier. Ouais, effectivement. Louis-Philippe d'Alembert, donc vous publiez Mur Méditerranée. Eh bien, parlons du texte avec Clara Dupont-Monod.
Ah, mais vous êtes notre actualité parce que c'est un peu ce coup de poing en forme de roman. Donc, Mur Méditerranée, de Louis-Philippe d'Alembert. Alors, on l'a dit, mais bref rappel, ce roman raconte le périple de trois femmes qui veulent atteindre, je cite, une forteresse inexpugnable, c'est-à-dire l'Europe. Il y a la Nigérienne Shoshana, qui fuit la faim.
Nigérianeux.
L'Érythréenne Semar, qui, elle, fuit la dictature. Et puis, il y a Dima, dont la maison et la mémoire ne sont plus qu'un tas de gravats, et qui fuit sa ville natale de Alep, en Syrie. On les suit donc depuis le départ jusqu'à l'arrivée à Lampedusa. On va être dans un pick-up lancé à pleine vitesse dans le Sahara, sous un entrepôt atroce en Libye. On va être sur un bateau évidemment chargé de 750 personnes et qui coule. Je trouve que votre force, c'est d'avoir fabriqué un livre passerelle. Un livre qui nous rapproche du ressenti de ces femmes. Parce qu'on a beau être plein d'empathie, il n'empêche qu'une Nigériane, c'est quand même loin de nous, qu'une Érythréenne, on ne sait même pas ce qu'elle mange, et pour une Syrienne, on n'a objectivement aucune idée de ce que ça veut dire que d'avoir notre maison natale qui est réduite en poussière. Donc ces trois expériences de vie que sont ces femmes, ce sont aussi initialement trois gouffres, en fait, avec nous. Et vous, ce que vous arrivez à faire, c'est que vos mots dessinent des traits d'union. C'est-à-dire que chaque fois, vous ciblez le point de concordance avec nous. Je vous donne un exemple. Shoshana, elle adore la série Game of Thrones. Bon, bah là, nous, ça nous parle. Non, mais c'est vrai. Sa meilleure amie, qui s'appelle Rachel, elle ponctue toutes ses phrases de « bordel de merde ». Ça nous arrive aussi régulièrement. Semar, elle adore nager. Dima, elle ne pense qu'à l'avenir de ses deux fillettes, qu'elle appelle « mon cœur » et « mon chaton ». Et du coup, vous n'êtes pas tendre avec notre bonne conscience occidentale. Parce que vous lui mettez sous le nez des semblables, des identiques. Et du coup, vous la secouez. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous n'essayez pas de faire joli. C'est-à-dire que parfois, les passerelles entre vos femmes et nous, eh ben, elles peuvent être négatives, parce que ce qui nous relie n'est pas toujours glorieux. Alors ainsi, Dima, la Syrienne, elle déteste Shoshana à cause de la couleur de sa peau. Elle l'apparente à un singe. Et c'est là où on se rend compte que la bêtise est peut-être la valeur la plus partagée par tous les terriens. Et j'ajoute que Dima est la seule femme qui a des enfants, et cette maternité ne la rend pas spécialement gentille. Et ça nous change un petit peu. Et en fait, ce que vous dites en creux, c'est que c'est pas parce que ce sont des femmes qu'il faut tout repeindre en rose. Et c'est là où, pour moi, c'est un vrai roman féministe. Parce qu'il montre les femmes dans leurs carences, dans leurs failles, parfois individualistes, comme le serait n'importe qui peut enfin manger après 36 heures de jeûne, ou abandonner sa meilleure amie pour enfin pouvoir gagner l'Europe. Alors, il se trouve que j'ai trouvé votre meilleure amie, parce que je suis sûre que parfois vous vous sentez un peu seule. Il s'appelle Daniel Defoe, et c'est le créateur de Robinson Crusoe. Et il se trouve qu'en 1722, il a pris un risque. Il a publié un livre qui s'appelle Moll Flanders. Et ce roman est considéré comme le premier roman féministe, parce qu'il est la voix
de Molle Flanders, qui était une femme décoiffante et décoiffée. Elle fut 12 ans catin, 5 fois une épouse, dont une fois celle de son propre frère. Elle s'en est rendue compte après. Elle a été emprisonnée 8 ans parce qu'elle était voleuse et elle a terminé très très riche et très très vertueuse. Eh ben, vous faites avec vos héroïnes comme Daniel Defoe a fait avec Molle Flanders. Vous n'essayez pas de les embellir. Et moi, j'ai entendu la voix de Molle Flanders à chaque page de votre livre. Dima qui pourrit son mari, elle n'est pas tendre avec lui. Shoshana qui, écrasée dans la cale du bateau, sort les griffes. Semar qui a une formation militaire, parfois c'est un soldat qui fait presque peur. Et ben, à chaque fois, c'est Molle Flanders qui bataille, qui fléchit, qui redresse la tête, qui pleure et qui vole des montres, qui prie et qui croque les hommes. Et à la fin de votre livre, on a envie de remercier ces trois mousquetaires avec un E, parce qu'elles sont un magnifique manifeste du biscotto féminin. Je vous redonne les références. Louis-Philippe d'Alembert, Mur Méditerranée chez Sabine Vespizer éditeur et Molle Flanders de Daniel Defoe est paru en folio.
Merci Clara Dupont-Moneau. Merci. On peut vous réécouter en podcast si jamais vous avez pris en cours cette chronique. Ne ratez pas cette chronique et ne ratez pas le roman de Louis-Philippe d'Alembert. Quelque chose à ajouter ou tout est...
Je suis sans voix. Est... Mais je voulais juste une chose. Pardon, vu le cadre de l'émission. Il y a quand même chez ces femmes du courage, de la détermination, mais beaucoup d'humour aussi chez Shoshana par exemple ou c'est chez son amie Rachel.
Mmh. Et elle chip aussi.
Oui, ça. Ah, tiens, c'est la première femme occidentale qui le fait aussi.
Je suis pas peu fière. Louis-Philippe d'Alembert, abordons rapidement cet autre sujet, car l'état d'avancée d'une civilisation se mesure aussi à l'état de ses latrines. C'est pourquoi cette journée mondiale des toilettes, c'est marrant sur le papier, mais c'est très sérieux quand on regarde hors de nos frontières. C'est une question de survie pour les trois quarts de la planète. Tandis que chez nous, on a trouvé un article de presse ce matin qui met en garde sur l'utilisation du smartphone au petit coin. C'est nos préoccupations à nous, voilà. Chacun la sienne, écoutez. Pour ça, on vous conseille la méthode plutôt Jean Rochefort. Voilà.
Moi, je me levais tôt, avec la lumière, aller pisser, dehors, contre un arbre, sentir un petit vent frais autour du gland. Putain, pisser contre un arbre et l'embrasser après.
Il nous manque, Jean Rochefort. J'ai toujours rêvé d'être un gangster, le film de Samuel Benchetrit. Alors cet article n'a pas énormément d'intérêt, je vous le cache pas, on ne dira pas où on l'a trouvé. Voilà, il nous dit qu'avec le smartphone, on risque de rester plus longtemps que nécessaire aux toilettes et qu'on n'est pas complètement concentré sur ce qu'on fait pour ça. Et puis qu'il y a une question d'hygiène, de dépôt de bactéries sur le smartphone. Voilà où on en est.
Sans compter quand il tombe dans la cuvette, quand on l'a dans la poche arrière.
Bah oui. On a peu de temps pour aborder ce sujet de fond. Je sais que vous n'avez pas de portable, donc vous n'avez
non.
pas de problème.
Ça risque pas de m'arriver.
Mais on est tellement passionnés par votre roman qu'on voulait aussi vous demander, les réfugiés dans votre roman, au fond de la cale, ils ont pas de toilette, mais ils ont un portable. Et la question des latrines, elle a un rôle dans le récit.
Oui.
Lequel ?
Oui, elle a un rôle parce que, en fait, les gens finissent par vivre dans leurs excréments presque pendant les 3 jours. Il y en a qui n'arrivent pas à se retenir. Et c'est l'odeur, c'est quelque chose qui est presque aussi oppressant que l'obscurité, presque aussi oppressant que la cale dans laquelle il se trouve. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours... C'est la question que je me suis toujours posée, moi, pour des gens qui voyagent de cette façon-là. Mmh. Et c'est la première question que je me pose. Où se trouvent les toilettes? Comment ils font? Et puis, finalement, il n'y en avait pas.
Mmh. Et puis pour le reste, on vous renvoie à ce roman qui a donc une valeur documentaire. Vous êtes renseigné jusque-là, jusque dans les chiottes, on peut dire.
Tout à fait.
Louis-Philippe d'Alembert, on va vous soumettre au feu des questions de Juliette Arnaud pour un questionnaire de Parjupi Proust.
Très gentil, vraiment très gentil questionnaire. Alors on commence par une question toute simple sur l'échelle du voyage qui va de 0 à 10. 0 étant Marcel Pagnol et 10 Jack London, vous vous situez à combien ? 44 ?
On va dire 57.
Non, parce que c'est vrai que vous avez largement autant voyagé que Jack London, honnêtement.
Oui, j'ai quand même beaucoup voyagé.
Quand même. La Gilly a envoyé son film Les Misérables à Emmanuel Macron, qui n'y a pas été insensible. Alors, à qui voudriez-vous envoyer votre livre ?
Au même.
Toujours pareil, toujours Emmanuel Macron. C'est bon, j'ai l'adresse. Pour quel dictateur vivant avez-vous un brin d'affection ? Fidèle, c'est trop facile et en plus
voilà,
il est mort.
C'est ce que j'allais dire.
Non, trop facile.
Mais vraiment, j'avais un brin d'affection pour ce vivant. Non, je n'en vois pas.
Personne. Très bien. Question Frédéric Fromet. Est-ce que vous
attendez à Angela Merkel ?
Non, c'est pas une dictatrice.
Ah non, pardon, dictatrice.
C'est vrai qu'elle est vivante, mais elle est
politique en général. Une dictatrice. Dédie le livre.
Alors ensuite, une question Frédéric Fromet, c'est-à-dire une question à base de jeu de mots. Est-ce que vous accepteriez de tourner avec Spielberg pour pouvoir dire la réplique culte suivante, Haïti maison?
Oh, vous êtes libre de pas répondre.
Très bien, question subsidiaire de Frédéric Fromet. Si vous habitiez Paris, voteriez-vous pour Rachida d'Haïti?
Oh. Ah ouais, on est sur un gros niveau.
Voilà. Louis-Philippe d'Alembert.
C'est la première fois que je voterai contre Haïti.
Bien joué. Louis-Philippe d'Alembert, pouvez-vous nous citer le théorème de d'Alembert? Moi je peux.
C'est la première fois qu'on me l'a fait. Ça, je m'en souviens pas.
Alors,
du tout.
Ça, c'est très simple. Tout polynôme non constant à coefficient complexe admet au moins une racine complexe. Qu'est-ce que cela vous évoque?
J'ai des racines complexes, effectivement.
Pas de bol, vous êtes chef de la France et vous êtes obligé de privatiser. Que choisissez-vous de privatiser d'abord? L'éducation nationale, les passages piétons ou France Inter?
Il y a un suspense.
Oui, ouais. Je dirais France Inter.
Et voilà.
Allez, c'est encore pour nous. La à dernière. Choisir, vous préféreriez être arabe, juif, homosexuel, gros, femme ou noir?
J'aime bien ce que je suis. Mais cela dit, de temps en temps, je me demande si j'étais femme, qui je serais.
Quelle femme?
Oui.
Louis-Philippe d'Alembert, merci infiniment et merci pour ce mur méditerranéen, Louis-Philippe. On se quitte, c'est la fin de l'émission. Merci à tous. Et puis demain, on reçoit Lou Doyon.
Loulou! Loulou! Loulou!
Oui, c'est moi!